Seigneur, nous voulons entendre ton message, ta voix. Pour ça, nous voulons lire tes Écritures saintes. Nous les croyons inspirées par ton esprit. Tu as conduit les auteurs dans ce qu'ils ont écrit. Et maintenant, conduis-nous, les lecteurs, dans ce que nous comprenons. Et conduis-moi, ton serviteur, dans ce que je vais dire de ta part. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 1. Donc c'est dans les toutes premières pages de vos Bibles ou au début de vos smartphones, si vous, je sais pas comment vous allez suivre ça, ou vous pouvez simplement écouter aussi. Au verset 11, il est écrit ceci. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits, selon leurs espèces, et ayant en eux leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon son espèce, et d'arbres donnant du fruit, et ayant en eux leurs semences, selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu a créé une nature, des plantes, des herbes, des arbres, qui, en poussant, produisent du fruit. Et dans ce fruit, il y a la graine, la semence, qui va replanter un arbre. Ça tombe bien, il y a un arbre en fleurs. Un principe vertueux, un cercle vertueux. Si vous ouvrez, comptez le nombre de grains qu'il y a sur une fraise, si vous ouvrez une courge, si vous mangez une pomme, vous aurez toujours dedans des fruits. Alors nous, on invente des raisins sans graines, sans pépins aussi, des choses comme ça, mais normalement, il y a des graines dedans, il y a de quoi recommencer, il y a de quoi replanter, repartir. Et la terre fait son job. Je ne sais pas si vous avez un compost, mais c'est souvent marrant de voir dans le compost qu'est-ce qui pousse sans qu'on ait vraiment cherché à le planter. Un peu tout ce qu'on met, la terre fait son job. Il y a une grande générosité, une providence ici. L'arbre produit un fruit de son espèce. Ça va, c'est basique, simple. Et quand on y réfléchit, c'est très généreux. Maintenant, on va tourner un peu plus loin dans nos Bibles, dans le livre des Proverbes. Le verset 30 des Proverbes dit ceci. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Donc quand je plante, c'est une métaphore, le fruit du juste, qu'est-ce qui pousse ? Merci Bruno, un arbre de vie. Mais du coup, quand je plante le fruit du juste, si c'est un arbre de vie qui pousse, qu'est-ce que ça m'apprend à propos du juste ? Parce que si je prends une pomme qui vient du pommier et que je la plante, je vais avoir un pommier. Donc si je prends le fruit du juste et que je le plante et que j'ai un arbre de vie, le juste est un arbre de vie. Ça va ? Puisque la semence porte l'arbre et que l'arbre donne la semence. Ça va ? Trop bien. Et donc là, il y a une sagesse qui nous est dite aussi, c'est que, quelque part, cette fécondité qu'on trouve dans la nature, que Dieu a inscrite dans la nature, en permettant aux plantes, aux arbres, on peut aller même plus loin, aux animaux, aux vivants, de se reproduire ainsi, de transmettre. Eh bien, ça peut se décliner aussi, pas uniquement dans les gènes, la chose, mais aussi dans le comportement. Il y a un lien entre ce qui se passe dans le cœur et le résultat. Il y a un lien entre ma vie intérieure et le résultat. Et si je continue le raisonnement, il y a un lien entre les résultats et la vie qui viendra. Hein, parce que l'arbre donne le fruit, mais le fruit donne l'arbre. Ça va? J'ai pas compris. Sauf qu'on cherche pas à savoir qui a commencé. Maintenant, je vous emmène encore plus loin dans le livre de Jacques. Au chapitre 3 de Jacques. Lequel d'entre vous est sage, intelligent ? Mais qu'il le montre par sa bonne conduite et ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Vous voyez ? La sagesse et l'intelligence sont des choses invisibles et intérieures. Comment est-ce qu'on les manifeste ? Comment les manifester ? Comment est-ce qu'on les rend visibles ? Comment est-ce qu'on peut les apprécier, les constater ? Par des œuvres bonnes, une conduite bonne. Vous voyez ? Le fruit du juste. Ce qui est à l'intérieur porte du fruit à l'extérieur. Tu es sage ? Jacques, il est en train de dire, ben, lequel d'entre vous ? Mais, ah, tu te dis sage, toi ? Ah, tu te dis intelligent ? D'accord. Ok, ok. Montre-le par quoi ? Une bonne conduite, des œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Empreintes de douceur et de sagesse. Étonnant comme la douceur revient souvent. À l'inverse, il dit, au verset 14, « Mais si dans votre cœur, vous avez une jalousie amère, de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Si dans votre cœur vous avez une jalousie amère de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre... Si dans votre cœur vous êtes tout dans la comparaison avec les autres, dans la compétition avec les autres, qui c'est le meilleur ? Ah, il a plus que moi, je veux réussir mieux que lui ou que elle. S'il y a tout ça, mais j'ai envie de vous dire de la même manière, ce qui se passe là va porter du fruit. Et ce qu'on observe et ce que vous vivez au collège, ce que vous vivez en milieu professionnel, ce que vous vivez parfois dans les familles, quand vous savez qu'il y a de la jalousie, de la rivalité, des choses comme ça, il y a des intrigues. Il y a de la triche. On avance dans l'ombre. On fait des coups. On a des agendas. On veut piéger, on veut dépasser, devancer. Et c'est pour ça qu'il dit ne vous glorifiez pas de ça et ne mentez pas contre la vérité. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la rivalité, qui sont dans la jalousie. Ils vont s'en glorifier quand ils ont réussi à attraper l'autre. Ils ont réussi à le piéger. Ils ont réussi à berner tout le monde. Et ils s'en glorifient. Ils vivent cette rivalité. Ils vivent cette jalousie. Ils vivent cette amertume. Toutes ces choses-là, ils les poursuivent. Ils les alimentent même. Et ils se laissent guider par elles. Et même ils se disent malins, sages, rusés, plus intelligents qu'eux parce qu'ils ont réussi à duper leur monde. Vous connaissez ça un peu, non? Moi ça m'est arrivé de croiser ça un peu. Je crois même que j'ai croisé ça un peu en moi des fois. Non, pas le pasteur. Mais si, si, si. Voilà ce que dit Jacques. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Démoniaque. Car là où il y a jalousie, rivalité, il y a du désordre, toute espèce de pratique mauvaise. Et c'est intéressant de réfléchir que est-ce qu'on croit vraiment que la graine va donner un arbre de la même semence? C'est-à-dire que voilà, si vous voulez obtenir un résultat, vous voulez garantir quelque chose, contraindre quelqu'un à choisir ceci, manipuler un groupe pour obtenir cela. Vous allez manipuler, vous allez tricher, vous allez agir dans l'ombre. Et ça va être dans votre graine. Et si j'en crois ce que disent les Écritures, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être aussi le fruit qui sortira de l'arbre, qui poussera. Je vais transmettre ça. Mais personne m'a vu. Personne n'a su. Je pense que ça va plus loin que ça. Et nous, les enfants de Dieu, on est appelés à avoir un fruit de justice, un fruit de vie. Et j'aime bien comment dit Jacques, la suite, verset 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Alors pure ici, comprenez-le pas forcément dans le sens sacré, religieux. On voit en physique une solution pure. Où il y a une seule composante. Elle n'est pas mélangée. Un cœur pur, c'est quelqu'un qui a une idée simple. Il n'a pas un agenda caché, il n'a pas le cœur qui balance entre deux envies. Il est pur, simple, pacifique, modéré, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Et cette phrase qui est une de mes préférées des Écritures, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Et quelque part, on est vraiment heureux, parce que comme toujours, j'ai envie de vous dire, ce que le Seigneur nous demande, avant de nous le demander, il fait autre chose. Il le fait lui-même. Et le Seigneur Jésus, lui aussi, a vécu en disant toujours, en faisant toujours, pardon, excusez-moi, ce qu'il y avait réellement dans son cœur. Dans son cœur. Et donc, on peut regarder ses actes, on peut regarder ce qu'il a fait, pour connaître réellement qui il est dans son cœur. Qui il est dans son cœur. D'ailleurs, souvent, ses détracteurs lui disaient « Mais dis-nous, es-tu réellement le Fils de Dieu? Arrête de nous le cacher. Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si toi, tu es le Christ, dis-le ouvertement. » Jésus leur dit « Mais je vous l'ai dit. Mais vous ne me croyez pas. » Les œuvres que je fais témoignent de moi. Encore une fois, le fruit et les graines. Regardons la vie de Jésus, regardons les fruits pour connaître réellement quel est son cœur. Regardons les actes qu'il a posés pour connaître réellement son cœur et on peut lui faire confiance. Parce qu'il n'est pas fourbe, il n'est pas hypocrite, il n'avance pas masqué, il n'avance pas dans l'ombre. Et on en voit le bénéfice et le fruit pour nous. J'aime bien, je vous l'ai déjà dit, mais le mot hébreu « émet », qui veut dire « vrai », il n'a pas le sens exactement le même que nous, on entend. Pour nous, il y a la vérité et le mensonge, vous voyez. Il y a l'information qui décrit ce qui est réel et l'information qui n'est pas réelle, qui est fantaisiste ou autre chose. Dans le sens hébreu, on retrouve cette idée-là, évidemment, mais légèrement différemment avec cette idée que ce qui est le « émet », c'est ce qui est fiable. Fiable. Voilà. Vous êtes sur des bancs vrais. Parce que vous n'avez pas hésité avant de vous asseoir sur ces bancs, vous n'avez pas eu peur qu'ils cèdent. D'accord ? Ils sont fiables. D'accord ? Les murs du temple, les poteaux en acier, là, en fonte, sont vrais parce qu'ils sont fiables. Et de la même manière, on peut penser qu'une parole, elle peut être vraie dans ce sens qu'elle est fiable. Je peux m'appuyer dessus. Je peux articuler, poser ma vie dessus parce que cette parole ne va pas s'avérer fausse un jour et je ne vais pas me retrouver complètement désorienté, perdu parce que j'aurais pris appui sur cette parole. Et dans ce sens-là, Christ est fiable. Il nous dit, voilà, regardez, on reconnaît un arbre à ses fruits. Regardez mes fruits et vous connaîtrez l'arbre que je suis. Je suis un arbre de vie. Celui qui mange de mon fruit vivra. D'ailleurs, il nous donne sa chair et son sang à travers la Sainte Cène pour manger et boire et recevoir de sa vie. Ainsi, frères et sœurs, je vous encourage ce matin déjà à vous réjouir de ce que nous ayons un Sauveur et un Seigneur qui est fiable, à prendre soin, quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez particulièrement les Évangiles, regardez, qu'est-ce que fait Jésus? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il lave les pieds de ses disciples, qu'est-ce que ça nous dit sur son cœur? Parce que c'est pas hypocrite, c'est pas pour faire semblant. Quand il guérit, quand il parle, qu'est-ce qu'il fait réellement? C'est pas pour faire semblant, c'est pas un hypocrite. Cela révèle réellement quel est son cœur. Et moi, j'ai envie aussi d'être un arbre de vie. J'ai envie aussi que le fruit que je porte soit une source de vie pour ceux qui m'entourent. Comment faire? Une chose très concrète à laquelle je vous encourage et que j'essaie vraiment de pratiquer. Pas de double langage. Une parole, comme on dit, assertive, dans le sens, je ne cache pas ce que je cherche, je suis intentionnel. J'annonce la couleur, j'annonce mes intentions pour être sûr de ne pas la manipuler et pour être sûr de laisser les autres libres de répondre. Je t'appelle parce que j'ai envie de te faire participer à ça. Est-ce que tu veux bien prendre part à telle liturgie? Et si c'est pas possible pour toi, si c'est difficile, tu me dis non, c'est ma responsabilité de trouver quelqu'un d'autre, c'est pas la tienne. Comment trouver une façon que nos paroles, notre langage, ne soient jamais un fardeau, jamais un piège pour les autres, avancer dans la lumière. Et quand je sens en moi de la jalousie, de l'amertume, de la rivalité, je ne les cultive pas, je ne m'en glorifie pas, je ne m'exalte pas, tiens, je vais lui tendre un piège. Comment est-ce que je pourrais lui faire fermer ça? Mais d'être un arbre de vie pour tous. Que le Christ soit un modèle, une inspiration, une source d'espérance pour vous aussi, parce que toutes ces paroles, toutes ces promesses sont vraies et fiables, et elles s'accompliront pour vous. Amen.